Bonjour Monseigneur Vanlu.
Bonjour.
Avec vous pendant ce mois d'avril, nous explorons la synodalité. Ce qu'est un synode, comment il fonctionne, et puis le cas plus précis de celui que vous menez en Aveyron aujourd'hui. Précisément l'Aveyron, ouvrons un peu une parenthèse pour mieux faire connaissance avec votre diocèse, son histoire, sa géographie, son économie, et les hommes et les femmes qui le composent. Si je dis « Amance chez les Rutaines », ça fait un peu titre de BD, mais bon, pourtant ce sont des éléments très significatifs de l'histoire de votre diocèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de qui est ce premier évêque ?
Saint-Amance, milieu du 4e siècle, peut-être pas le tout premier, celui qui aurait apporté l'évangile en Rouergue, mais en tout cas un des tout premiers responsables de communauté. On n'a pas beaucoup d'éléments historiques avérés. Il nous est raconté un certain nombre d'éléments forts, en particulier de son combat contre les idoles, oui. Ce qui est une manière aussi de signifier que quand la foi chrétienne arrivait dans ces terres-là, il y avait un véritable enjeu de s'ouvrir à l'accueil du Dieu de Jésus-Christ, en opposition à toutes les superstitions ou à toutes les idoles qui pouvaient aussi habiter ces contrées-là. Le diocèse de Rodez, c'est une terre qui a son entité déjà très ancienne, hein,
le Rouergue,
qui est donc une terre. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié ça un petit peu en arrivant, de découvrir que autant la géographie peut paraître complètement éclatée entre le nord du département qui est encore très attaché au Massif central, hein, qui est très proche du Cantal, et puis les parties sud-est ou sud-ouest qui sont déjà tournées vers la Méditerranée ou au contraire vers la région toulousaine. Donc c'est une terre qui est vaste, hein, c'est un grand département en territoire et qui est marqué par de grandes diversités et qui en même temps a une espèce d'unité profonde, hein, et donc en tout cas très ancienne. Et donc l'évangile est venu rejoindre cette terre très tôt, ça fait peut-être dans la période où à partir des villes évangélisées en Gaule, le christianisme s'est répandu progressivement dans les campagnes, hein. Et ce qui est frappant, c'est que depuis, cette tradition d'implantation de l'évangile s'est développée de manière très forte, hein. Un des éléments qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que au XIIe siècle, et en quelques années, à peine plusieurs décennies, hein, on a vu s'implanter 6 abbayes cisterciennes, hein, sur cette terre. Et donc les religieux cisterciens, hein, les moines, ont à la fois organisé la terre, ils ont travaillé à l'agriculture et à l'aménagement de cette terre, mais ils ont aussi planté l'évangile dans cette terre, quoi. Et donc depuis, ça s'est beaucoup beaucoup développé, et d'une certaine manière avec une réelle continuité, hein, jusque à la Révolution, on voit beaucoup de témoins de la foi, hein, martyrs originaires d'ici, jusqu'au 19e siècle où on voit beaucoup de missionnaires, hein, qui vont partir à travers le monde, hein, et jusqu'au 20e siècle où on voit aussi beaucoup de chrétiens qui vont participer à l'évolution de cette terre, hein.
C'est donc une terre qui est fondamentalement religieuse.
Ah, c'est une chrétienté, c'était vraiment une terre où la présence chrétienne a été très 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 forte, et où du coup, vous pouvez l'imaginer en contraste, la brutalité avec laquelle elle éprouve aujourd'hui la fragilité de la transmission de la foi, quoi.
D'accord, on reviendra peut-être effectivement, oui, sur ce côté plus contemporain. Vous disiez tout à l'heure, vous citiez les abbayes cisterciennes, on ne peut pas ne pas citer Conques, évidemment, qui est donc sur le chemin de Compostelle, qui vous traverse.
Alors, qui n'était pas une abbaye cisterciennes, mais qui est une abbatiale où on conserve les restes de Sainte-Foy, hein, et qui est sur le chemin de Saint-Jacques. Hein, le chemin de Saint-Jacques traverse l'Aveyron sur une centaine de kilomètres, avec des lieux tout à fait importants et splendides. Et Conques est un des lieux tout à fait importants sur ce chemin, qui est animé par les religieux prémontrés. Voilà, de même qu'il y a Sylvanès dans le sud, qu'il y a bien de lieux tout à fait riches et hauts en tradition chrétienne.
Alors c'est aussi la terre de naissance d'une femme qui est célèbre, en tout cas dans la région, Émilie de Roda, fondatrice d'une congrégation et dont plusieurs établissements scolaires portent le nom. Qui était-elle ?
Alors, Émilie de Rodez, c'était une jeune femme de famille aristocratique de la région de Rodez, mais qui a vécu au moment de la Révolution et qui a surtout été dans le Villefranchois parce qu'elle s'était réfugiée avec sa famille dans ce secteur-là, et qui donc à cette période-là, donc au début du XVIIIe siècle, a été très frappée et sensibilisée par la déshérence un peu d'un certain nombre d'enfants de familles pauvres, hein, et qui donc s'est vouée à l'éducation des jeunes filles et des jeunes filles de familles pauvres. Hein, et donc il a fondé une congrégation qui est la congrégation de la Sainte Famille, hein, à Villefranche, fondée par Émilie de Rodez. Émilie de Rodez a été canonisée au milieu du XXe siècle. Donc c'est une sainte vénérée et beaucoup visitée à la maison mère de la Sainte Famille à Villefranche de Rouergue. Et depuis, sa congrégation continue à beaucoup se développer, puisque à cause un peu des avatars qu'ont connu les congrégations religieuses, elle s'est internationalisée au début du XXe siècle. Et depuis, elle s'est implantée dans pas mal de pays. Et ce qui lui donne aujourd'hui une présence dans bien des lieux et un dynamisme qui vient aussi de la diversité de ses membres, quoi, hein, de la diversité d'origine et de différents pays de ses membres. Quoi.
Une fécondité, voilà, de l'Aveyron. Vous disiez tout à l'heure effectivement que le XXe siècle est un siècle de choc, avec ce deuxième parti qui voit effectivement une très forte déchristianisation. Vous l'analysez un petit peu comment, cette deuxième partie du XXe siècle?
Alors, je vais y revenir, mais puisque vous me faites évoquer les grandes figures, on ne peut pas ne pas nommer en ce moment Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui vient d'être béatifié, qui lui était originaire de la région de Casville, au Gard, hein, et qui lui a été prêtre, a été ordonné à Rodez, mais est rentré chez les Carmes et a fondé donc assez rapidement l'Institut Notre-Dame de Vie, qui est maintenant à côté de Vénasque, en Avignon, et qui lui a été de ceux qui ont beaucoup poussé, en essayant de rendre accessible à tous, on parlait de, ça rejoint un peu notre réflexion, vous voyez, mais que la spiritualité du Carmel n'est pas réservée à quelques âmes fortes qui se mettraient en retrait, mais ça peut vraiment être vécu par n'importe quel chrétien, n'importe quel baptisé, quoi. Donc Marie-Eugène Enfant Jésus, qui a été béatifiée au mois de novembre, ça a été un moment important pour l'Institut de Notre-Dame de Vie, mais aussi pour notre diocèse, hein. Et puis, comme un bonheur n'arrive pas toujours tout seul, eh bien on a aussi à la fin du mois de décembre, courant décembre et puis après en janvier, célébré parmi les premiers martyrs fondateurs du Laos, Lucien Galland, qui était donc un prêtre originaire de l'Aveyron, membre de la Société des Missions étrangères de Paris, et qui est mort martyr en 1968. Vous voyez, on n'est pas à des années-lumière, hein, on est à peine à 50 ans de là, qui fait partie des premiers martyrs fondateurs de l'Église au Laos. Voilà, donc c'est aussi, moi je suis personnellement très impressionné, vous voyez, de recueillir aujourd'hui ces fruits-là, hein, de ce que des générations précédentes et parfois toutes proches nous témoignent, hein, de la fécondité de l'Évangile quand on le prend au sérieux, quoi.
Et donc vous avez effectivement un rôle à les faire vivre encore aujourd'hui, de manière à ce qu'ils inspirent peut-être les jeunes générations.
Voilà, alors ça revient à votre question précédente, qui est de se dire aujourd'hui, c'est évident que... Depuis, disons, les années 70, hein, globalement, on vit une vraie rupture dans la transmission, hein, de la foi chrétienne. Hein. Et donc une espèce de richesse étonnante, foisonnante de la vie de l'Église, que l'on voit progressivement s'amenuiser, se fragiliser, disparaître quelque peu à certains endroits. Et un des enjeux, hein, qui pour moi aussi touche au synode, hein, c'est de se dire... qu'est-ce que nous avons à vivre et à inventer, hein, pour être aujourd'hui une Église qui demeure fidèle à ce qu'elle a reçu, hein, des générations précédentes, et qui trouve un peu les chemins, peut-être, qui a peut-être à trouver des chemins nouveaux pour vivre de l'Évangile et en témoigner aujourd'hui.
D'accord, et ce sont ces nouveaux chemins que vous essayez de tracer.
Eh bien, c'est en tout cas cela qu'on essaie de dessiner avec le travail du Synode, pour que ce soit aussi une décision plus lucide et portée ensemble, et qui d'une certaine manière nous engage ensemble dans la manière de le mettre en œuvre.
Pour finir, si vous deviez définir un Aveyronnais en quelques mots.
Ah, je ne sais pas si ça se définit en quelques mots, un Aveyronnais. je disais au début que les Aveyronnais peuvent être très différents, parce qu'il y a des lieux différents sur le territoire, et parfois des lieux qui sont modestement, mais parfois de manière un peu significative aussi, des lieux d'antagonisme entre les uns et les autres. Mais ce qui me frappait beaucoup, c'est que dès qu'on est à l'extérieur, on est à Véronée.
Il y a une forte identité, une forte solidarité.
Une forte solidarité qui se manifeste par exemple chez les Aveyronnais de Paris, qui se manifeste aussi dans des lieux où les Aveyronnais ont immigré. Je trouve que c'est un tempérament qui est marqué par la rudesse du pays et la rudesse des générations précédentes qui ont eu beaucoup à travailler pour vivre et pour survivre. Donc le travail est une valeur première. Il faut d'abord travailler. Et je trouve que c'est une espèce de solidité et de qualité absolument exceptionnelle et extraordinaire. Et à cause de ça, peut-être, je trouve aussi qu'une des grandes qualités des Aveyronnais, c'est de ne jamais être totalement écrasé par les difficultés, mais que bien souvent les difficultés sont des éléments qui vont les stimuler et les aider à rebondir plutôt que quelque chose qui va les étouffer et les écraser quand même. Donc il y a une espèce de solidité du tempérament qui est quelque chose d'assez magnifique.
Très bien, merci beaucoup Monseigneur Fonlu. La semaine prochaine, nous évoquerons les premiers fruits du synode diocésain qui est en train de s'achever dans votre diocèse. Merci encore pour cette participation à cette émission de cette semaine.